Le journal, Mireille Boukassa. Les médecins de Kisangani veulent corriger certaines choses pour pouvoir améliorer la qualité du service minimum à assurer aux malades qui se plaignent. Ces médecins ont aussi fait le bilan de leur mouvement de grève. Chapitre élection, la CEI a sensibilisé les élèves et les étudiants à Chimbulu, au Kasaï occidental, à Kinshasa, sortie officielle hier du RENACO, une nouvelle plateforme qui comprend en son sein 3 candidats à l'élection présidentielle. Les détails dans ce journal. Au sud Kivu, sacre de Monseigneur François-Xavier Maroy Roussengo à Bukavu ce dimanche. Dans ce journal, nous vous ferons le portrait du nouvel archevêque de Bukavu. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Okapi. À Kisangani, le syndicat provincial des médecins s'est réuni hier. C'était pour évaluer le déroulement de la grève des médecins déclenchée depuis près de 2 semaines. Pendant ce temps, les malades se plaignent du service minimum mis en place. Selon eux, ce service ne profite pas à l'ensemble des malades. À ce sujet, des nouvelles stratégies ont été décidées pour corriger la situation. Godlive Omondo.
Les médecins présents à cette rencontre se sont félicités de l'observation de la grève dans tous les établissements médicaux publics de la province. Ils ont cependant déploré le non-respect de l'horaire de permanence par certains d'entre eux. Pour pallier cette situation, des nouvelles recommandations ont été formulées pour assurer la prise en charge optimale des malades. Docteur Roger Amissi, secrétaire provincial de Sinamed.
Nous devons faire une surveillance journalière pour contrôler si les camarades médecins respectent cela. Nous avons projeté de faire une évaluation de façon hebdomadaire. Nous devons aussi médiatiser l'horaire de permanence et de garde pour que les malades sachent où aller et quand il faut passer.
Des malades se plaignent du manque de médecins de permanence. Ceux-ci ne sont présents à l'hôpital que pour quelques heures par jour. Plusieurs malades, surtout ceux en attente d'intervention chirurgicale, se sentent abandonnés. Cette femme, hospitalisée aux cliniques universitaires, attend l'opération de son bras gauche depuis le début du mois.
Je suis ici aux cliniques, j'attends qu'on allait m'opérer au cours de ce mois. Comme cela coïncide avec la grève, les médecins ne savent pas quoi faire. La nuit, je souffre beaucoup. Tout ceci à cause de la grève des médecins.
Le docteur Amissi précise que le service minimum n'intervient que pour des cas graves et urgents. Pour lui, les malades déjà hospitalisés doivent être suivis correctement. Il indique cependant que le dysfonctionnement du service chirurgical aux cliniques universitaires n'est pas lié à la grève, plutôt aux problèmes logistiques. Kisangani, Godlive Omondo, Radio Okapi.
Santé toujours, discordance entre le traitement et la prescription. Coupure intempestive de stock de médicaments et l'augmentation des objets laissés en gage par les malades. C'est ce qui a motivé l'organisation d'une formation à l'intention des médecins de l'Ituri. L'ONG MEDER, qui appuie l'inspection du district de Bounia et celui de Djougou, a formulé certaines recommandations aux 45 participants de cette formation de 5 jours. Madame Cyril Chève, médecin à l'hôpital général de référence de Bounia, est au micro de Mathieu Ilunga.
Et ce qui nous a particulièrement frappé dans ce séminaire, c'est qu'il y a eu des informations que nous avons reçues de la part des organisateurs. Aussi, il y a eu des contributions. Bref, nous avons été richement instruits en ce sens que des petites erreurs qui se font peut-être dans les prescriptions, en ce sens que les médicaments pour une pathologie quelconque, les diagnostics posés, on prescrit plus de médicaments que le besoin qui se présente. Le séminaire nous a aidé à pouvoir vous prescrire des médicaments tels que demandés et pour pouvoir limiter le nombre de médicaments dont le malade a besoin. Et cela aide aussi à pouvoir garder le stock. Du moins, nous savons que ça va beaucoup nous aider parce qu'on dit en science qu'on n'a jamais fini d'apprendre.
Près d'une centaine de vies humaines sont sauvées par mois par les donneurs bénévoles du sang. Ce sont les statistiques de l'hôpital général de référence de Kindu. Nous sommes dans la province du Maniema. Ceci a été dit hier samedi lors de la manifestation des donneurs bénévoles du sang à l'occasion de leur journée qui est tombée le 14 juin. Une centaine de personnes âgées de 18 à 65 ans ont montré leur fierté à être donneurs bénévoles de sang. Reportage de Rigobert Yumandouani.
C'est sous ces rythmes que les donneurs ont montré leur fierté. Ils disent qu'il y a eu ce sang gratuitement de Dieu, ils ne peuvent le donner aussi que gratuitement. Il parle à Françoise, donneuse bénévole. Ce qui m'a poussé à devenir donneuse bénévole, c'est le résultat du test de mon sang qui m'a révélé que j'étais en bonne santé. Alors, j'ai eu l'idée de sauver la vie de mes frères et sœurs qui manquaient du sang. C'est ainsi que je me suis décidé d'aider les autres avec ce sang et gratuitement. Ce sang est conservé à l'hôpital général des références de Kindu. Dr Blaise Baozi est le médecin coordonnateur provincial. Il explique dans quelles conditions ce sang est conservé.
Nous prélevons ce sang-là, nous l'amenons à l'hôpital général, là où nous allons faire différents tests. Après avoir fait tous ces examens, le sang qui est jugé bon, nous le gardons au frigo qui est à température entre 2 degrés et 8 degrés. Et cette température est sous surveillance et cette conservation ne doit pas aller au-delà de 30 jours.
Cette banque de sang sauve des centaines de vies humaines depuis plus de 2 ans qu'elle existe. Témoignage du médecin directeur de l'hôpital.
Et avec la présence de la banque de sang ici, on a toutes les garanties de transfusion. Ne serait-ce que pour le mois passé, nous avons consommé 91 unités de sang. Vous imaginez toutes ces personnes-là nécessiteuses du sang. Et s'il n'y avait pas une banque de sang, cela se solderait par des décès.
À la fin de la cérémonie, le président fédéral des donneurs a exhorté tout le monde à se faire examiner afin de devenir donneur bénévole. De Kindu, Rigobert Rimandouani Walumba, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la fièvre aphteuse est déjà détectée dans plusieurs fermes du nord et du sud de la province. La semaine dernière, elle a été confirmée dans les fermes de Masisi et de Ngungu. Bien avant, elle n'était signalée qu'à Butembo, dans le Grand Nord. Selon le docteur Adrien Katsomia de l'inspection provinciale de l'agriculture au Nord Kivu, le virus de cette maladie s'attaque aussi bien au gros qu'au petit bétail. Et le risque que la fièvre aphteuse passe dans la chienne humaine n'est pas à exclure, surtout pour les éleveurs qui sont en contact direct avec les bêtes contaminées. Le docteur Katsomia Adrien au micro de Rosalie Zawadi.
Nous savons que la fièvre aphteuse est une maladie qui touche les vaches, les cochons, chèvres et moutons. Même l'homme peut être touché. L'animal aura des plaies sur la langue, la gueule et même au niveau des genoux. La bête ne pourra plus se déplacer ni manger. Elle mourra ensuite de faim. Cette maladie est venue de l'Ouganda. Plusieurs vaches ont également été touchées à Butembo. La semaine dernière, nous sommes allés mener une enquête à Kibumba. Il s'avère que plusieurs vaches sont déjà malades de la fièvre aphteuse. La maladie est dans toute la province. Les éleveurs surtout sont exposés. Ils peuvent la contracter par contact direct avec les bêtes.
Sortie officielle du regroupement des nationalistes congolais RENAKO en sigle, c'était hier au jardin botanique de Kinshasa. Cette plateforme électorale s'est donnée pour objectif d'assurer le bien-être social au peuple congolais par une discussion équitable. 24 partis politiques sont signataires de l'acte constitutif de cette plateforme qui comprend en son sein 3 candidats à l'élection présidentielle. Il s'agit de Jean-Pierre Bemba, Jonas Mukamba et Mboso Kodiapwanga et 800 candidats à la députation nationale. Restons toujours dans le chapitre des élections pour signaler que la commission justice et paix de l'Église catholique poursuit la sensibilisation électorale à l'intérieur du Kasaï occidental. La cité de Chimbulu et sa périphérie étaient à l'honneur cette semaine. Les séances de cette semaine ont porté sur les voies qui mènent à la démocratie et à l'acceptation des résultats du scrutin électoral. Des détails avec André Kambala.
Ils étaient environ 300 élèves finalistes du secondaire et étudiants qui ont suivi ces séances. Une formation en éducation civique électorale basée sur deux thèmes, la route qui mène à la démocratie et l'acceptation de résultats. Selon M. l'abbé Jean-Pierre Kasonga, l'un des facilitateurs, cette session a visé un objectif double. S'intégrer dans les élections pour changer la situation actuelle du pays et éviter toutes les formes de violence après ces échéances électorales. Les bénéficiaires de la CIS ont aussi souhaité que le bureau de liaison de la CI Chimbulu vulgarise la loi électorale à travers toutes les couches de la population en vue de permettre à celle-ci de voter utile. Après l'étape de Chimbulu, la même sensibilisation électorale se poursuit en Fwamba et à Kaoulou. Kananga, André Kambala, Radio Okapi.
Au Maniema, les Interahamwe trafiqueraient les armes avec la population du groupement Benyabemba de la collectivité secteur des Babouyou. Le chef de ce groupement dénonce ces faits et craint que ces armes ne puissent un jour se retourner contre eux en cas d'affrontement entre populations. Il affirme que ces Interahamwe basés à Kilembwe dans le sud Kivu font fréquemment des incursions dans son entité. Alphonse Kichakungwa, chef du groupement Benyabemba, au micro de Jean-Serge Chindani.
Les Interahamwe, ils sont là, ils n'ont pas leur base là chez nous, mais leur base se trouve à Kilemwe. Et ces gens, ils descendent chez nous, ils vendent des armes à la population pour faire le braconnage du domaine de chasse de la Loama. La population voit mal cet état de choses parce que nous approchons des élections. Et avec ces armes, la population peut faire des gaffes et amener encore une deuxième rébellion. Et ça peut abîmer les élections, ça peut boycotter les élections. Nous demandons aux autorités de Kinshasa de prendre des mesures pour que ces problèmes se décalent au plus vite que possible avant que les élections ne commencent.
Au Sud Kivu, sacre de Monseigneur François Xavier Maroy Roussengo à Bukavu ce dimanche, administrateur diocésain de l'archidiocèse de Bukavu depuis la mort de son prédécesseur, Monseigneur Charles Kambale Mboga, en octobre 2005. Monseigneur François Xavier Maroy prend aujourd'hui officiellement possession canonique de son diocèse. Notez que les cérémonies d'intronisation sont dirigées par Monseigneur Monsengo, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale des évêques du Congo. Dieudonné Bagaloa nous présente le portrait du nouvel archevêque de Bukavu. On l'écoute.
Né à Bukavu en 1956, Monseigneur François Xavier Maroy a été nommé évêque auxiliaire de Bukavu à la fin 2004. Il sera ordonné évêque le 16 janvier 2005 à la paroisse de Kadutu à Bukavu. Ancien curé de cette même paroisse, Monseigneur Maroy est connu pour sa sagesse précoce et pour son combat pour la paix et la concorde entre les communautés. Nommé tour à tour recteur des petits séminaires de Chibimbi et Mugeri, curé de paroisse, vicaire épiscopal, puis vicaire général, et aujourd'hui il est intronisé archevêque de Bukavu. À ce titre, il préside donc la conférence provinciale des évêques de tout l'ancien Kivu qui comprend les diocèses de Bukavu, Goma, Uvira, Butembo, Kindu et Kasongo. À noter qu'avant cette cérémonie d'intronisation, tous les évêques du Kivu étaient en réunion pendant 3 jours à Bukavu. Le but était de faire le point sur la situation de leurs diocèses respectifs et donner un message d'encouragement à la population à la veille des élections libres et démocratiques. Dieudonné Bagaloa, Bukavu, Radio Kapi.
Monseigneur Maroy, on l'a dit, succède à Monseigneur Charles Mboga, décédé des suites d'une maladie. Bien avant lui, il y avait à la tête du diocèse de Bukavu, Monseigneur Mundi Roy, Christophe, assassiné en 1996, et puis Monseigneur Emmanuel Catalico, mort à Rome en l'an 2000. 380 000 dollars américains, montant alloué aux 7 projets communautaires de la province du Bas-Congo par le Fonds social de la République démocratique du Congo. Le début de ce financement a été officiellement lancé hier à Matadi par le gouverneur intérimaire, Léonard Fouca Unzola. Ce dernier a remis à titre symbolique les chèques aux projets bénéficiaires. De Matadi, une correspondance de Dani Kindanzita.
Le Bas-Congo bénéficie d'une allocation de 2 830 000 dollars américains, dont 2 millions pour les projets de petite taille et au moins 830 000 dollars américains pour les projets de taille moyenne. Ils étaient au total 7 les projets du premier lot qui inaugurent ainsi la phase de ces financements consacrés à la réhabilitation des écoles, des marchés et la construction d'un pont. D'après M. Firmin Bo Elongo, directeur administratif et financier du Fonds social de la RD Congo, cet événement s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet d'action sociale d'urgence, projet financé pour une durée de 4 ans par l'accord de dons de 60 millions de dollars américains consentis au gouvernement de la RD Congo par la Banque mondiale. Le gouverneur intérimaire Léonard Fouca Unzola a pour sa part lancé un appel aux communautés bénéficiaires de la province de saisir cette opportunité pour l'amélioration des conditions de vie sociale de la population. Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
L'actualité en dehors de nos frontières, 3 journalistes égyptiens et un avocat des frères musulmans ont comparu dimanche devant une cour pénale au Caire pour avoir dénoncé des fraudes présumées lors des législatives de la fin 2005. L'audience s'est déroulée en présence des accusés et de nombreux membres de la confrérie, le principal groupe de l'opposition, du mouvement d'opposition Kefaya, ça suffit en français, ainsi que de représentants d'organisations de défense des droits de l'homme. Le pape Benoît XVI a lancé un appel en faveur des réfugiés du monde entier à l'issue de l'Angelus dominical qu'il a récité de la fenêtre de son bureau dominant la place Saint-Pierre au Vatican. À 2 jours de la Journée mondiale du réfugié promue par l'ONU, Benoît XVI a souhaité que les droits de toutes ces personnes soient toujours respectés et a encouragé les communautés ecclésiales à répondre à leurs besoins. La presse américaine s'enthousiasmait dimanche pour son équipe nationale de football, auteur d'un nul valeureux contre l'Italie samedi, nul qui lui permet de garder intact ses espoirs de qualification en dépit de sa dernière place dans le groupe et du mondial 2006. C'est par ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Radio Capi.